Le journal Mireille Boukassa.
À la une, le bilan officiel des affrontements entre la police nationale et les Bundoudia Congo le week-end dernier. Le gouverneur du Bas-Congo parle de 22 morts et un véhicule de la police incendié. Mais comment résoudre cette affaire des BDK qui devient une récidive? Les autorités congolaises, la MONUC ainsi qu'un analyste politique proposent le dialogue. Vous les suivrez dans cette édition. Désormais, les compagnies de télécommunications devront enregistrer l'identité complète d'un acheteur d'une carte SIM. Ainsi en a décidé le gouvernement congolais pour des raisons sécuritaires. Et vous suivrez des réactions de la population au micro de Radio Kapi qui nous viennent de Kinshasa et de Goma. L'actualité, c'est aussi les besoins humanitaires dans le nord Katanga qui s'avèrent importants, raison de la visite éclair du représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies dans cette partie du pays. Ross Mountain a promis d'être utile pour les besoins les plus urgents au Tanganyika. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons par ces précisions sur ce qui s'est passé dans le Bas-Congo après le déploiement de la police dépêchée depuis Kinshasa le week-end dernier. Les adeptes de Bundoudia Congo se sont affrontés avec les éléments de la police, ce qui a causé la mort de 22 personnes et un véhicule de la police incendié. Le gouverneur de province a donné ce bilan officiel hier au cours d'une rencontre avec la presse. Simon Mbachi Batia s'est aussi prononcé sur l'idée de la tenue d'une table ronde ou d'un dialogue, idée soutenue par certaines personnes pour résoudre le problème BDK. Le numéro 1 du Bas-Congo, vous allez l'entendre, dit avoir initié ce dialogue avec le chef spirituel de BDK, mais il se dit déçu de constater que les choses ne changent pas sur terrain. Simon Mbachi Batia au micro de Dani Kinanzita.
Beaucoup aujourd'hui, peut-être ne connaissaient peut-être pas les images que vous venez de voir, sont dans des envolées oratoires. Ah, pourquoi ne pas dialoguer? Ah, pourquoi ne pas dialoguer? J'ai dialogué, et je peux vous dire que je suis allé jusqu'à la dernière tentative du dialogue, c'est-à-dire, j'ai rencontré personnellement Némoïna Nsemi pendant 4 heures, et nous avons parlé avec lui. À la fin, nous nous sommes promis la collaboration, nous nous sommes promis de mettre fin à tout ce qui se passe et nous nous sommes donné le numéro de téléphone. Malheureusement, force est de constater que sur le terrain, rien, malheur, rien n'a changé.
Aux dernières nouvelles, la société civile de Sekebanza signale des nouveaux affrontements hier dans cette cité entre le Bundoudia Congo et la police arrivée hier même dans cette cité à 82 km de Matadi. Jusque-là, aucun bilan de ces derniers accrochages. Que faut-il faire pour résoudre définitivement ce problème de Bundoudia Congo? Question posée à un analyste politique, François Elika, estime qu'il ne faudrait pas être tenté de chercher à éliminer le mouvement Bundoudia Congo au risque de stocker des frustrations. Il suggère d'abord la visibilité des actions du gouvernement, puis la tenue du dialogue à travers une table ronde. François Elika, analyste politique et assistant à l'IFASIC, est au micro de Jeff Ngoy.
Ce qui est important, c'est pas de détruire ce mouvement, parce qu'on pourrait encore favoriser à travers la militarisation l'émergence de plusieurs autres mouvements. Ce qui est important, c'est que l'action gouvernementale au niveau national comme au niveau local doit être améliorée pour plus de visibilité, de façon que la population voit ses conditions existentielles améliorées. Quand ces conditions sont améliorées, il y a effectivement gestion des frustrations et des mécontentements. Le deuxième palier, c'est la mise en place des mécanismes opératoires du dialogue à travers une table ronde qui doit en principe définir un cadre de convention de développement de sorte que les responsabilités des différentes personnalités qui influent sur le comportement de masse soient orientées, établies et donc canalisées vers la production d'un code d'engagement citoyen au niveau de la province. Si ceci n'est pas fait, je noterai sincèrement que nous allons penser que nous avons détruit un mouvement alors que nous avons juste stocké des frustrations qui vont s'accumuler au fil de temps.
Les événements qui se déroulent actuellement dans le Bas-Congo sont en quelque sorte une répétition des événements similaires survenus en janvier 2007 dans cette province. À cette occasion, l'Assemblée nationale avait eu à envoyer sur place dans le Bas-Congo une commission d'enquête pour faire la lumière et établir les responsabilités. Elle avait fait son travail et fait rapport au Parlement depuis lors, silence total. Pourquoi alors le Parlement est resté silencieux sur ce dossier alors qu'il aurait pu tirer des leçons et faire des recommandations? décision pour éviter la répétition de cette situation? Guy Roger Niampala a posé cette question à un député national qui avait fait partie de la dite commission d'enquête parlementaire. Réponse de Kembuku Soa Ne Lanza.
C'est une bonne question que vous pourriez bien poser au bureau de l'Assemblée nationale. Parce que dès qu'une commission d'enquête rentre de sa mission, elle établit son rapport et le dépose au bureau de l'Assemblée. La plénière en discute et tout ce que le rapport contient comme établissement des responsabilités des partis concernés ou des recommandations que la commission aurait pu faire, c'est le bureau de l'Assemblée qui gère ça. Donc là, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas vous répondre. En tant que simple membre de la commission, nous n'avons aucun rôle à jouer après que nous ayons déposé notre rapport au bureau de l'Assemblée.
Sachez que Radio Capi a tenté en vain hier d'avoir la réponse du bureau de l'Assemblée nationale. Tous les téléphones sont restés fermés. Toujours dans ce dossier BDK, signalons que dans un communiqué de presse rendu public hier, la MONUC affirme qu'elle procède au renforcement de son dispositif militaire et policier dans la province du Bas-Congo avec effet immédiat. Cette mesure vise à aider à la protection des populations civiles, protection qui demeure au cœur du mandat de la MONUC. La mission onusienne appelle à la continuation du dialogue pour trouver des solutions durables aux problèmes de la province. La situation sécuritaire au Bas-Congo était au centre d'un entretien entre le ministre congolais de l'Intérieur et les ambassadeurs chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC. Hier lundi, Denis Kaloumé a informé le corps diplomatique de la gestion transparente des événements survenus à Luozi dans le Bas-Congo. Le ministre d'État affirme que le gouvernement est en train de rétablir l'ordre par la sécurisation des personnes et leurs biens. Et du côté du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC a déclaré soutenir le rétablissement de l'autorité de l'État à travers le dialogue. En parlant de sécurité, désormais, tous les opérateurs du secteur des télécommunications doivent procéder à l'identification de tous leurs abonnés sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est une décision du gouvernement. Selon un communiqué officiel signé conjointement par le ministre de l'Intérieur, Denis Kaloumé, et celui des postes téléphones et télécommunications, Louise Munga, tout abonné qui ne sera pas identifié à la souscription d'un abonnement ne pourra avoir accès à aucun réseau national des télécommunications. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tenue samedi dernier entre le gouvernement et des opérateurs du secteur des télécommunications. Elle est dictée par les raisons de sécurité et de maintien de l'ordre public. Les opérateurs des télécommunications ont donc 3 mois pour se conformer aux dispositions du communiqué. Dans le cas contraire, ils verront leur service interrompu. Comment réagit donc la population à cette décision du gouvernement? Première réaction enregistrée par Radio Capi, c'est celle du gouverneur du Nord Kivu. Julien Paluku appuie cette mesure qui, selon lui, a le mérite de sécuriser tout le monde ainsi que l'État. On l'écoute au micro de Rosalie Zawadi.
Je crois que c'est une opération qui se passe partout à travers le monde où le secteur des télécommunications doit être contrôlé par l'État. C'est la raison pour laquelle, au niveau du ministère de l'Intérieur, on a sorti une décision de recenser tous les abonnés. Et au niveau du recensement, il faut que chaque abonné puisse donner son identité complète, notamment le nom, le post-nom, la nationalité, l'adresse complète. On a besoin de l'adresse électronique pour qu'en cas de problème, l'autorité puisse savoir situer le niveau de son implication. De deux, vous savez que ces derniers temps, il y a des gens qui intimide les autres par des messages anonymes. Cela ne donne pas à l'autorité l'occasion de savoir exactement d'où proviennent toutes ces menaces-là.
Est-ce que ça ne va pas limiter la liberté de communication? Il n'y aura pas des tables d'écoute, par exemple, sur les appels des personnes?
Non, au niveau de l'État, nous n'allons pas mettre des millions d'abonnés sur des tables d'écoute. Comment d'ailleurs nous allons les suivre? Où est-ce que nous aurons les agents pour suivre tous ces gens, chacun à son niveau, sur une table d'écoute? Il ne faudrait pas que les gens aient peur de croire qu'on va devoir les lister et puis commencer à les écouter. Tout le monde sait que au niveau des maisons de télécommunications, si on veut suivre les communications de quelqu'un, on le suit tout simplement. Donc, ce n'est même pas un problème.
Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, s'entretiendra avec Rosalie Zawadi à partir de 7h30 dans Invité du jour. Patricia Mwanda a également promené son micro dans les rues de Kinshasa. Suivant.
pour moi, je trouve qu'elle est bonne, que les sociétés de télécommunications exécutent. Ça permet au gouvernement quand même de contrôler certaines communications, parce qu'il se passe dans notre pays des choses qui semblent parfois bizarres, des communications qui sont parfois anonymes, dont on ne peut pas connaître l'origine. Pour moi, je trouve que c'est mieux.
Ça se fait dans tout le pays. Et vous savez très bien que les dépenses que les sociétés de télécommunications doivent à l'État sont calculées notamment en fonction du nombre d'abonnés. Or, il se fait que les sociétés qui sont dans notre pays foulent au pied cette réglementation qui est internationale.
Moi, ma société déjà a 1 million d'abonnés. Alors, je trouve que c'est trop de travail à demander d'abord pour les sociétés de télécommunications. Et puis, je me demande, c'est pour nous mettre dans la lumière ou bien... Mais je ne sais pas, parce que je crois que ce n'est pas vraiment une bonne mesure de sécurité.
Les besoins humanitaires dans le nord Katanga s'avèrent importants, ce qui explique la visite éclair du représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies dans cette partie du pays. Ross Montaigne a promis d'être utile pour les besoins les plus urgents au Tanganyika. Les détails dans la seconde partie du journal après l'actualité en plus bref. Les 3 clubs congolais restant en compétition africaine interclub connaissent désormais leurs adversaires pour les 16e de finale. Ce prochain tour se jouera dans 2 semaines. En Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi sera en face de FC 105 du Gabon. Et en Coupe de la CAF, Maniema Union jouera contre Astres Douala du Cameroun. Et V Club sera opposé à Interstar du Burundi. Au Kenya, au total 15 personnes ont été tuées hier lundi dans la vallée du Rift au cours d'une attaque, d'après un responsable de la police kenyane se confiant à l'AFP sous couvert d'anonymat. L'attaque a été menée par des assaillants armés de machettes et d'armes à feu. Et le leader de l'opposition, Raila Odinga, au cours d'une conférence de presse à Nairobi, a qualifié cette attaque d'odieuse. Ces violences interviennent quelques jours après la signature jeudi dernier d'un accord de gouvernement de coalition et de partage du pouvoir par le président Mwai Kibaki et l'opposant Raila Odinga.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
La suite du journal avec vous, Innocent Olenga. D'abord au Sud Kivu, la cour d'appel de Bukavu a jugé irrecevables les 3 recours introduits la semaine dernière par des candidats au poste de gouverneur rejetés par la CEI.
Le verdict est tombé hier lundi. La cour siégeant en matière de contentieux électoral s'est prononcée sur ces cas de recours contre la décision de la CEI sur l'invalidation des candidatures au poste des gouverneurs de la province de Bulambo, Kizungu et Bisimwa. Motif dirigé selon la cour, les recours ont été introduits par les avocats au nom de leurs clients sans que ces avocats ne justifient d'une procuration spéciale les ayant investis de ces pouvoirs. Ils ont ainsi violé l'article 25 alinéa 2 de la loi électorale qui stipule que l'action doit être personnelle. À noter que la liste définitive des candidats retenus sera publiée le 6 mars.
Au Kasaï occidental, les responsables des syndicats des fonctionnaires de l'État accusent les autorités provinciales de tenter de museler l'action syndicale.
C'est une déclaration faite hier par les porte-parole des syndicalistes au cours d'une réunion de divers comités des syndicats. Ceci après avoir constaté que 11 d'entre eux, tous fonctionnaires de l'État et signataires d'un mémorandum réclamant l'amélioration des conditions salariales, ont reçu des lettres de réaffectation en dehors de la ville de Kananga. Alphonse Mabila Bin Mayumbe dénonce ces irrégularités dans la procédure et s'étonne que la réaffectation ne concerne que les syndicalistes. Il est au micro de Marie-Chantal Lumba.
Il y a l'ordonnance 029 de 1982. On fait voir que la mutation se sollicite. Nous n'avons pas sollicité. Ça, c'est la première irrégularité. Deuxièmement, on dit que la mutation est motivé et individuel. Nous ne sommes pas allés individuellement solliciter cette permutation. Et aujourd'hui, mais pour nous, nous allons en mutation. On nous dit que nous n'avons pas droit à l'indemnité de mutation, à la prime d'intérim. Quant à dire que quand nous partons, il y a d'autres syndicalistes. Nous avons un mandat d'un élu. Et on ne doit pas changer. Sinon, que la loi qui dit qu'un élu, un syndicaliste, ne doit pas être déplacé, que notre autorité provinciale, qu'il prenne le stylo noir, qu'il barre ça. Il y a l'ordonnance 029 de 1982. On fait voir que la mutation se sollicite. Nous n'avons pas sollicité. Ça, c'est la première irrégularité.
Réaction du gouverneur des provinces, ces personnes sont mutées comme agents de l'État et non comme syndicalistes. Trésor Kapuku estime qu'à leur nouvelle affectation, ils vont renforcer les actions de l'administration publique.
Ross Mountain, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, a effectué une visite éclair au Nord Katanga.
À Moba comme à Kalemi, les agences humanitaires ont présenté à Ross Mountain les besoins pressants pour la population. Ross Mountain promet d'être utile pour les besoins les plus urgents au Tanganyika. Françoise Abimide.
Renforcement d'appui à l'éducation, renforcement d'appui non alimentaire, réhabilitation des routes détruites par des pluies, la prise en charge des victimes des viols et violences, retour des réfugiés et réinsertion communautaire des ex-combattants, tels sont les principaux besoins exprimés à la fois par des agences humanitaires et les autorités locales au coordonnateur humanitaire des Nations Unies. Au Nord Katanga, le Haut Commissariat aux réfugiés a réussi à rapatrier en 2007 450 000 personnes. 20 000 autres attendent dans les pays limitrophes de la RDC. Des centaines d'ex-combattants posent des problèmes de réinsertion. Les épidémies comme la rougeole et le choléra demandent à être prises en compte. À ces tableaux sombres, ajoutez la pandémie du VIH-Sida, le paludisme, la malnutrition encore présente dans certaines zones, les difficultés qu'éprouvent les populations d'avoir accès à l'eau potable. Pour tous ces problèmes, le représentant spécial Ross Mountain appelle les humanitaires à des actions concertées.
On est en train de traiter avec les agences humanitaires. Malheureusement, jamais assez d'argent pour tous les besoins, mais je crois qu'on peut également être utile pour les besoins les plus aigus au Tanganyika. Je suis aussi ici pour discuter de la possibilité d'un appui supplémentaire pour renforcer les actions, surtout de l'installation de la sécurité et de l'installation de l'autorité de l'État dans des zones fragiles.
Décalémie, François-Xavier Mibé, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'actualité, c'est le lancement depuis dimanche dernier à Goma des opérations de recensement des populations, des villes et des territoires de cette province.
C'est l'initiative du gouvernorat. L'objectif de ces opérations, avoir la densité exacte de toute la population du Nord Kivu, a indiqué Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu. Selon lui toujours, les agents recenseurs sont déjà dépêchés dans les territoires et à Goma, les chefs de quartier et agents de service sont mobilisés pour ces opérations.
Innocent, terminons ce journal dans le district de Litouri pour signaler l'évasion des prisonniers à Mahagi.
Sur 160 détenus de la prison centrale de Mahagi, 47 se sont évadés dimanche dernier pendant la journée. Selon le président du tribunal de paix de Mahagi, les policiers des gardes ont indiqué que ces personnes ont réussi à forcer les portails arrière de la prison avant de disparaître dans la nature. Une version que ce président du tribunal rejette. Pour l'instant, tous les quatre policiers qui assuraient la garde au niveau du portail arrière de cette prison au moment de l'évasion sont aux arrêts.
Et c'est par ici que s'arrête ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur www.radiokapi.net. Okapi.